Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 7, les versets 11 à 17. Le Seigneur dit encore à Akaz, roi de Juda, « Demande un signe au Seigneur ton Dieu, soit dans les profondeurs du séjour des morts, soit dans les lieux les plus élevés. » Akaz répondit, « Je ne demanderai rien. » Je ne provoquerai pas le Seigneur. Ésaïe dit alors, « Écoutez, je vous prie, maison de David, ne vous suffit-il pas de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille est enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera du nom d'Immanuel. » Dieu avec nous. Il se nourrira de lait et de miel quand il saura rejeter ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon. Mais avant que l'enfant sache rejeter ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon, la terre des deux rois qui t'épouvante sera abandonnée. Le Seigneur fera venir sur toi, sur ton peuple et sur ta famille, des jours tels qu'il n'y en a pas eu depuis le jour où Éphraïm s'est éloigné de Juda. » Et puis, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 1, les versets 18 à 25. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par le feu de l'Esprit-Saint. Joseph, son mari, qui était juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit-Saint. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils qu'il appela du nom de Jésus. Voilà, nous sommes le dimanche 22 décembre, c'est le dernier dimanche avant Noël. Dans la tradition liturgique de plusieurs églises, c'est le quatrième dimanche du temps de l'Avent. Dimanche dernier, nous étions déjà ici dans la célébration de la fête de Noël avec tous les enfants de l'école biblique et du catéchisme, avec les louveteaux et les éclaireurs. Malgré tout ce que ces jours-ci portent de colère, de fatigue, d'énervement, d'incertitude, de déception, de violence, ce sont aussi des jours imprégnés d'une attente et d'une espérance. Il ne s'agit pas seulement d'attendre une célébration, celle du 25 décembre, en église ou en famille. Il ne s'agit pas d'espérer une année nouvelle toute proche qui serait meilleure que celle qui s'achève. Mais ces jours remettent particulièrement en perspective la dynamique de l'Évangile. Et même à travers la résignation ou l'agressivité ou la démission, la culpabilisation qui assombrissent et étouffent les existences et nos sociétés, et auxquelles, hélas, des religieux participent, la dynamique de l'Évangile est une dynamique de reconnaissance et de gratitude, de libération et de relèvement. Mais cette dynamique ne s'impose pas. Jamais. Elle est visible, elle est lisible, elle est sensible à travers des textes de la Bible, à travers des signes, comme celui dont témoignent les textes lus aujourd'hui. C'est donc un signe que le prophète Ésaïe donne au roi Akaz. Alors que le royaume de Juda se trouve sous la menace d'une guerre. À peu près en 735 avant Jésus-Christ, l'empire assyrien domine le Proche-Orient. C'est une domination violente et qui ne laisse que deux possibilités au petit royaume de cette région. Soit la soumission à la Syrie, avec en général paiement d'un lourd tribut, soit la résistance armée avec les plus grandes chances de se faire écraser, car la Syrie est un empire très puissant. Alors pour résister à cette puissance assyrienne, eh bien il faut se rassembler, se coaliser à plusieurs royaumes. Et c'est ainsi que le royaume d'Aram et le royaume d'Israël, le royaume du Nord, s'allient et veulent entraîner avec eux le royaume du Sud, Juda, dont le roi Akaz penche plutôt pour négocier avec la Syrie. Alors pour obliger Akaz, roi de Juda, à se joindre à eux, le roi d'Aram et le roi d'Israël commencent par marcher contre Juda. Akaz se retrouve alors dans une position très délicate. Le prophète Ésaïe intervient. Ésaïe, son nom signifie « Dieu sauve ». Ésaïe exhorte Akaz à demander un signe à Dieu. Mais Akaz est assez imbu de lui-même. Il ne fait pas assez confiance à Dieu, comme s'il lui était possible de se tirer d'affaire tout seul. Alors Ésaïe lui transmet quand même un signe. Et ce signe, c'est que la jeune fille est enceinte. Elle mettra au monde un fils qui sera nommé Immanuel, Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Un signe, même un signe de Dieu transmis par un prophète, ça n'est pas une garantie que tout va s'arranger. Un signe, c'est la marque de Dieu qui ne se désintéresse pas des péripéties, des affaires, des affres des humains. Ce n'est pas forcément un événement extraordinaire, un signe. L'arc-en-ciel est un signe, celui de l'alliance avec les êtres vivants. Le sabbat est un signe, celui de l'alliance avec le peuple hébreu. Le signe indiqué par Ésaïe, c'est celui d'une naissance proche, le signe d'un nouveau-né. Signe de quoi ? Au 8e siècle avant Jésus-Christ, quel est cet enfant dont la naissance est signe de l'Éternel, signe au sujet de l'Éternel pour un peuple menacé par la guerre. Pour ce qui concerne la maison d'Akaz, c'est-à-dire la maison de David, car Akaz est descendant du roi David, il s'agit très certainement de la naissance d'un fils à ce roi qui jusqu'à présent n'a pas d'enfant, ou du moins pas de fils. Et effectivement, il naîtra à Akaz un héritier qui sera le roi après lui, le roi Ézéchias, qui n'est pas nommé Emmanuel dans les récits bibliques, mais les rois portaient couramment plusieurs noms. Cela, c'est comprendre, lire, interpréter le signe au niveau de l'histoire de la dynastie d'Akaz et de David. Mais ce n'est pas tout. Un signe peut être encore interprété. De cet enfant, plusieurs choses sont dites. D'abord son nom, Emmanuel, Dieu avec nous. Ce qui peut aussi bien signifier Dieu est avec nous que Dieu soit avec nous. Mais quand la guerre menace, il peut être rassurant de se dire que Dieu est avec nous. Et beaucoup d'armées, beaucoup de peuples, beaucoup de clans, de partis ne s'en sont pas privés. On enrôle facilement Dieu pour des combats qui peuvent aussi bien être ceux des armes que ceux d'arguments. Pour le roi de Juda, il n'est pas très surprenant que son Dieu soit avec lui, avec son peuple. Les autres peuples, les autres dieux, les autres rois ont d'autres dieux, à part Israël. Mais pour porter ce nom sur un champ de bataille, il faudrait un guerrier, un homme fort, et pas un nouveau-né. De cet enfant, il est également dit par Ésaïe qu'il sera nourri de lait et de miel. Le lait et le miel, c'est une nourriture d'abondance, c'est la nourriture de la terre promise, une nourriture non de temps de guerre, mais de temps de paix. Lait et miel, c'est une nourriture de douceur. Et d'ailleurs, au chapitre suivant, le prophète ajoute d'autres noms à Emmanuel. Il sera appelé conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, prince de la paix. Le signe qu'est cet enfant n'est pas un signe pour la bataille, c'est un signe de douceur, un signe de non-violence, le signe d'un règne de justice. C'est le signe d'un oui à la vie, le signe d'un avenir. Alors il est une autre lecture de ce passage du livre d'Ésaïe, une lecture bien postérieure au prophète, une lecture qui a vu dans l'annonce de la naissance de cet enfant celle de la venue du Messie. C'est une lecture d'espérance pour le peuple d'Israël qui attend un descendant de David qui établira un règne qui marquera la présence de Dieu assurée parmi son peuple, un règne où couleront le lait et le miel dans la paix enfin établie. L'attente messianique a ainsi nourri l'espérance d'Israël pendant des siècles, de génération en génération, à travers les aléas et les drames de son histoire. Et à partir de cette autre lecture, une troisième est possible. Lorsque les disciples de Jésus de Nazareth ont reconnu en lui le Messie attendu, et l'évangile de Matthieu en est un témoin, avec l'annonce faite à Joseph, dans laquelle l'ange reprend l'annonce d'Ésaïe. L'enfant né de Marie accomplit la parole du prophète, même si Matthieu prend quand même quelques distances avec Ésaïe. L'enfant ne sera pas nommé Emmanuel, mais Jésus, ce qui signifie « Dieu sauve ». C'était aussi le nom du prophète Ésaïe. Et il sauvera son peuple de ses péchés. Aujourd'hui, nous savons que l'enfant né de Marie, Jésus de Nazareth, n'a pas été le Messie attendu par le peuple d'Israël. Il n'a pas été le Messie comme le Messie qu'attendait le peuple d'Israël. Il n'a pas secoué le joug romain. Il n'est pas devenu roi à Jérusalem. Il n'a pas fait œuvre de stratège militaire ou politique. Cet enfant devenu grand a manifesté, a opéré une œuvre de réconciliation, une œuvre de paix, une œuvre de justice, en disant « Lève-toi et marche » à celui qui était paralysé, en retenant ceux qui voulaient jeter la pierre sur la femme adultère, en touchant les lépreux et tous ceux qui étaient considérés comme impurs, en rendant la vue aux aveugles. Il a manifesté en lui-même ce Dieu au cœur même de l'humanité, Dieu avec nous. Ce que Matthieu reprend en fin de son évangile lorsque le ressuscité dit à ses disciples « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Il n'est plus seulement question d'Israël, mais de la terre entière jusqu'à ses extrémités. Ni temps ni lieu ne sont privés de ce Dieu avec, ni personne, ni aucune existence. La naissance de l'enfant de Marie, c'est l'incarnation de la volonté de Dieu de donner aux humains de quoi faire de leur monde une terre où coule le lait et le miel, une terre de paix et de respect, de droit et de justice. L'annonce faite à Achaz, l'annonce faite à Joseph, l'annonce faite à Marie dans l'évangile de Luc, le nouveau-né comme signe, l'advenue du Sauveur, c'est à nous de les reprendre encore, 20 siècles après Matthieu, en ce temps d'Avent, en ce temps de Noël ou en d'autres temps, pour les accueillir, les interpréter à nouveau aujourd'hui. L'attitude d'Achaz qui refuse de demander un signe sous un prétexte faussement pieux résonne avec tout ce qui aujourd'hui n'est qu'agitation, voire cri de guerre, ou hésitation, voire résignation. L'attente d'un sauveur, de préférence un homme fort, perce à travers les crises et les incertitudes, malheureusement parfois relayées par des religieux. Mais comment croire que Dieu avec nous puisse faire office de cri de ralliement sur un champ de bataille où la victoire des uns attesterait de la défaite des autres? 2000 ans après Jésus-Christ, en dépit de tout ce qui a été pensé et réalisé en termes de droits humains, de droits sociaux, de soins, les angoisses et les menaces pèsent sur la terre des humains, lui donnent une forme qui n'est plus très ronde, une couleur qui n'est plus très bleue. L'enfant né de la jeune fille, nourri de lait et de miel. L'enfant né de Marie que Joseph accueille comme le sien, sont le signe que Dieu n'abandonne pas et ne se résigne pas au malheur. Ces enfants représentent un oui de vie, un oui d'avenir au cœur même de l'absurdité, du désarroi, au fond des impasses et des peurs. Obstinément, ils font signe, ils sont signe, marque d'un Dieu qui ne se lasse ni ne renonce, mais qui insiste sur la possibilité d'un monde autrement, qui insiste sur une logique de douceur et de confiance, qui insiste sur la vision d'une humanité débarrassée, délivrée de ses appétits de violence, de haine et de jalousie. Un enfant nouveau-né, cela ne raconte pas une jolie petite histoire à l'eau de rose, un petit peu chamallow. L'enfant nouveau-né est le signe qui relaie un appel à vivre en paix et en confiance, c'est-à-dire réconcilié avec soi, avec autrui et avec Dieu. Un appel qui n'engage pas pour plus tard, mais pour un aujourd'hui, un maintenant à recevoir. Comme un nouveau-né ne peut que recevoir. Comme s'il nous revenait de faire grandir en nous l'enfant déposé au creux de notre âme. Il ne s'agit pas seulement de l'enfant d'Akaz, il ne s'agit pas seulement de l'enfant de Marie, il s'agit de notre propre devenir humain, nourri de lait et de miel, conseillé par le prince de la paix que fut l'enfant de Marie et qui est toujours le Christ vivant pour nous. Orienté par Dieu avec nous, ce qui n'est pas une formule, mais une histoire, notre histoire, l'histoire de chacun de nous. Que le signe de Dieu soit un enfant nouveau-né, vient ouvrir en nous une source de confiance, sans que nos faiblesses ni nos fragilités ne soient méprisées. Une source d'émerveillement devant le surgissement de la vie, et particulièrement les surgissements inattendus. Une source d'apaisement, car c'est la confiance de Dieu en nous qui est ainsi communiquée. Une source d'encouragement pour un devenir affranchi des déterminismes. De cette source, nous pouvons devenir nous-mêmes les signes, même si nous ne sommes plus des nouveau-nés, des signes pour le monde en souffrance, en attente. Et c'est cela aussi Noël, un appel à grandir en réconciliation, en paix et en douceur. Comme Jésus de Nazareth le dit un peu plus tard, « Heureux les faiseurs de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Amen.